Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rentrée des comptes sur Mon Paris FM. En fait, comme c'est l'automne déjà et qu'il pleut, que c'est pas toujours facile de se lever le matin quand ça se passe comme ça, j'ai prévu de vous raconter un conte susceptible de vous donner la pêche. Et je vais vous le raconter dans la peau d'un des personnages du conte. Et donc voilà mon histoire. Mon père était bûcheron. C'est vrai que les bûcherons, ils ont la réputation de travailler dur, hein. Mais lui, alors, vraiment, il travaillait dur, de la pointe du jour jusqu'aux toutes dernières lueurs du soir. Et à force de travailler dur comme ça, mais tous les jours, eh bien, il a fini par mettre de côté un beau petit pécule qu'il gardait secrètement dans un tiroir. Et puis un jour, à l'époque j'étais adolescent, il a pris un air grave et il m'a fait venir près de lui. Il a ouvert le tiroir où il gardait son pécule et il m'a dit « Tu vois tout cet argent-là ? Eh bien, je l'ai gagné, on peut le dire, hein, à la sueur de mon front. Et tu sais ce que j'ai décidé d'en faire, fiston ? Eh bien, je vais financer des études pour toi à l'université. Comme ça, eh bien, tu vas pouvoir étudier quelque chose d'intéressant. Et puis après, eh bien, tu vas pouvoir faire un métier utile. Et puis aussi, a-t-il ajouté avec un petit sourire en coin, quand je serai paralysé par l'arthrose et que je pourrai plus bouger de ma chaise, eh bien, c'est toi qui me nourriras. Et moi, en entendant ça, j'ai été, mais bouleversée, touchée jusqu'au fond de moi-même. Depuis tout ce temps, il avait préparé ce projet pour moi. Et puis aussi, vraiment, il me donnait la chance de vivre une toute autre vie que la sienne. Et effectivement, quelques mois plus tard, eh bien, je suis entrée à l'université et j'y ai étudié avec ardeur et entrain. Et je dois dire que je me suis attirée les louanges de mes professeurs. Mais voilà que, avant que je n'aie terminé le cycle complet de mes études, avant que je n'ai donc pu obtenir mon diplôme, eh bien, le pauvre argent de mon pauvre père, il a fondu au soleil. En fait, c'est le coût de la vie qui est monté en flèche et brutalement. À l'époque, on ne parlait pas du pouvoir d'achat, mais c'était la même notion. Et donc, mon père m'a dit qu'en réalité, désormais, il avait tout juste de quoi joindre les deux bouts et qu'il ne pouvait plus financer mes études. Alors, eh bien, je suis rentrée chez moi, chez lui. Mais en fait, moi, personnellement, je me disais que c'était pas grave. Quoi qu'il m'arrive, j'étais persuadée que je m'en sortirais toujours, que j'avais de la chance et que tout irait bien pour moi. Et quand je suis rentrée, que j'ai retrouvé mon père qui était si meurtri, si blessé, de voir son beau rêve voler comme ça en éclats, Eh bien, c'est ce que je lui ai dit pour tenter de le réconforter, parce que je le pensais réellement. Mais lui, vraiment, non, ça ne l'a pas apaisé. Et comme le lendemain, eh bien, il partait pour aller couper du bois dans la forêt, je lui ai proposé de partir avec lui pour lui donner un coup de main. Et à ce moment-là, il s'est mis à ricaner et il m'a dit « Mais viston, voyons, tu sais que c'est physique, hein, ce que je fais. C'est pas pour les intellectuels dans ton genre, t'es devenu un intellectuel. Non, je te promets, tu tiendrais pas le coup. Et puis, de toute façon, y a pas de cognée pour toi. » Mais moi, alors ça, on peut dire que je me suis accrochée. Et pour la cognée, je lui ai dit, mais c'est pas compliqué, il suffit d'aller voir le voisin, il a plusieurs cognées, on lui en emprunte une, avec l'argent que je vais gagner, on la lui rend avec les intérêts, et je pourrais m'acheter une nouvelle cognée, et voilà tout. Et il a continué à bougonner, mais bon, finalement, je le connaissais, hein, il était souvent comme ça, finalement, il se laissait faire. Alors il a accepté. Et donc, le lendemain matin, dès l'aube, nous voilà partis tous les deux dans la forêt. Et moi, j'étais mais ravie, enchantée de me retrouver au milieu des arbres, de pouvoir à nouveau respirer cet air que je n'avais pas respiré depuis plusieurs années. Et j'étais pas fatiguée du tout quand j'ai commencé à travailler, non. Je l'ai fait avec entrain et enthousiasme. Et c'est lui, oui, c'est lui, qui sur le coup de midi a dit « Bon, on va prendre une petite pause, hein, on va casser la croûte, hein, fiston, là. Comme ça, on va reprendre des forces pour redémarrer après. » Mais moi, je n'avais qu'une envie, c'était de découvrir les nids dans les arbres. Alors je lui ai dit que ben, je préférais aller me promener. J'ai pris un morceau de pain et puis je m'apprêtais à y aller. Mais lui s'est mis à bougonner. « Mais qu'est-ce que tu vas tournicoter comme ça? Que tu pourras même plus lever les bras après. » Mais bon, j'y suis allée quand même. Et j'étais là. Je levais le nez joyeusement à la recherche de nids dans les arbres. Et donc j'allais, comme ça, à droite, à gauche, en me laissant porter, jusqu'à ce que finalement, eh bien, j'arrive devant un arbre. Mais alors, un arbre énormissime. C'était un chêne qui devait être vieux de plusieurs siècles. Et vraiment, si cinq hommes s'étaient tenus par la main pour tenter d'encercler son tronc, non, il n'y serait pas arrivé. Et donc moi, j'étais là, impressionnée, silencieux, à admirer cet arbre, lorsque j'ai entendu comme une voix qui disait « Fais-moi sortir! Fais-moi sortir !» Alors moi, j'ai regardé tout autour, mais j'ai rien trouvé. Et puis en fait, la voix, elle venait de la terre. Alors je me suis mis à fouiller dans les racines. Ça a pris un bon bout de temps, ma foi. Mais finalement, entre deux racines, j'ai découvert une petite bouteille que j'ai levée à contre-jour. Et là, dans cette bouteille, il y avait comme une espèce de grenouille qui hurlait. « Fais-moi sortir! Fais-moi sortir !» Alors moi, je ne me suis pas méfiée. Hein. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et clac, j'ai ouvert la bouteille. Mais c'est à ce moment-là qu'est sorti de la bouteille un esprit qui s'est mis à grandir, à grandir, à grandir, à grandir encore, jusqu'à devenir aussi grand que la moitié du chêne. Et une voix tonitruante a clamé,
Je suis le puissant Mercurius. Et sais-tu la récompense que tu vas avoir pour m'avoir sorti de la bouteille? Eh bien, je vais te le dire. Celui qui délivre Mercurius, eh bien, je dois lui briser le cou. Ah bon, lui ai-je dit. Mais j'étais pas plus effrayé que ça, hein? Non, non, non. Ah bon, mais si tu me l'avais dit avant, c'est sûr que je t'aurais pas délivré, hein. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans ton histoire, ai-je ajouté. Parce que si tu étais vraiment le puissant Mercurius, comment tu aurais pu te retrouver comme cette chose minuscule dans la bouteille que j'ai délivrée? Prouve-moi d'abord que tu sors de la bouteille et à ce moment-là, d'accord, tu feras de moi ce que tu voudras. Et lui, Mercurius, plein de morgue, a dit « Pfff, rien de plus facile, voyons !» Et il s'est mis à décroître, à décroître, à décroître, de la même façon qu'il avait grandi. Il a rapetissé, 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 jusqu'à devenir une toute petite chose qui est rentrée dans la bouteille. Et moi, évidemment, clac, j'ai refermé aussitôt. Et voilà, le tour était joué. Il était à nouveau prisonnier. Et moi, je m'apprêtais à rejoindre mon père en me disant qu'il devait commencer à s'inquiéter. Mais c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix, mais cette fois, c'était une voix pitoyable, qui disait « S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Avec ce que je te donnerai, je te promets, tu en auras pour toute ta vie, s'il te plaît, laisse-moi sortir. » Et moi, je lui ai dit « Non, mais tu m'as bien regardé quand même, hein. Je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois. Et puis dis-moi, est-ce que toi-même tu délivrerais quelqu'un qui a tenté de te tuer ? Non. Je n'ai plus confiance, mais vraiment pas, tes intentions sont glauques. » Et c'est à ce moment-là qu'il a continué à supplier, mais en disant « Fais-moi sortir si tu ne le fais pas. Tu vas passer à côté de ta chance. Tu vas passer à côté de ta chance. Tu vas le regretter toute ta vie. » Et ça, vous voyez, ça m'a fait réfléchir. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, dans ce cas de figure. Mais moi, j'ai réfléchi vraiment. Et je me suis dit, bon, moi, je suis la chance incarnée. Hein. J'ai de la chance. Et puis, bon, c'est vrai qu'il peut ne pas tenir sa promesse, mais il n'est pas non plus exclu qu'il puisse la tenir. J'ai pas peur de toute façon. Je ne crains rien. Et voyons, envisageons même le pire. Il me tue. Eh bien, tout bien réfléchi, je crois que je préfère ça à une vie où je ne pourrai plus croire en ma chance. Et ça, j'ai senti que c'était tellement juste. Alors, eh bien, j'ai rouvert la bouteille. Et il est sorti. Et cette fois, eh bien, il a été, disons, fair play. Il m'a tendu un bout d'étoffe qui était un emplâtre, en me disant que si on le frottait d'un côté contre une blessure, eh bien, elle guérissait immédiatement. Et si on le frottait de l'autre côté, avec une lame, eh bien, cette lame se transformait en argent. Je lui ai dit oui, pas mal, mais il faut que je vérifie, hein, quand même. Alors, j'ai pris ma cognée, et puis, oh, j'ai cogné l'arbre en lui faisant une belle écorchure sur le tronc et puis j'ai appliqué l'emplâtre Et fut, l'écorchure a totalement disparu. Alors je lui ai dit, ouais, beau cadeau, merci. Et lui m'a remercié également. Et voilà, on est reparti chacun de son côté. Et moi, eh bien, j'ai retrouvé mon père, mais alors dans un état. Il était, mais furieux. Et il m'a dit, ah, mais c'est agréable. Oui, c'est vrai que c'est agréable de travailler avec toi. Je dois dire que tu m'aides beaucoup. Ah oui, oui, oui. Merci, merci d'être venu. Et moi, je lui ai dit, mais père, je vais rattraper le temps perdu. Regardez, cet arbre-là. En deux temps, trois mouvements, là, en deux, trois coups, je vous l'abats, cet arbre-là. Alors j'ai pris ma cognée, je frottais la lame contre l'emplâtre et... Oh ! Mais naturellement, la lame s'est transformée en argent et la cognée s'est faussée. Alors quand mon père a vu ça, que j'avais faussé la cognée du voisin, il est rentré dans une colère, dans une espèce d'orage invraisemblable. De temps en temps, il éclatait comme ça. Et je savais que, eh bien, la seule façon de faire, c'était d'attendre que l'orage passe, comme on dit. Et l'orage a fini par passer. Et donc je suis allée vers mon père et je lui ai dit « Père, je ne peux plus travailler maintenant puisque j'ai plus de cognée, alors est-ce que on pourrait peut-être rentrer tous les deux ?» Et là, à nouveau, il est monté sur ses grands chevaux en disant « Mais tu crois que moi je peux me tourner les pouces comme ça le reste de l'après-midi ?» Et puis bon, à nouveau, il s'est attendri quand même et puis il m'a dit « Bon, allez, d'accord, fiston, on va rentrer. » Et sur le chemin, il m'a dit « Écoute, quand on sera à la maison, toi, tu iras jusqu'à la ville pour essayer de tirer quelque chose de cette cognée pour le voisin. » Et c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée à la maison, je suis repartie en ville et là je suis allée, mais toc, directement chez un joaillier qui a regardé la pièce, impressionné. Il l'a éprouvée, il l'a pesée, il l'a testée et puis il m'a dit « Ouais, belle pièce, ça vaut 400 écus. » C'était juste une fortune. Mais il a ajouté, le problème c'est que je les ai pas. Et moi je lui ai dit que il pouvait me donner ce qu'il avait et puis le reste, il le donnerait par la suite. Et en fait, il m'a quand même donné 300 écus. Alors je suis rentrée à la maison et j'ai retrouvé mon père et je lui ai dit « C'est une surprise !» Fermez les yeux et ouvrez vos mains. Et il s'est prêté au jeu. Alors je lui ai mis dans les mains 100 écus. Et quand il a rouvert les yeux, waouh, 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 il est resté muet, médusé devant tout cet argent pendant quelques minutes. Et puis il a fini par dire mais où tu as trouvé tout cet argent ? Alors eh bien je lui ai raconté l'histoire que je viens de vous raconter et comment j'avais été bien inspirée de croire en ma chance. Parce que la fin de l'histoire eh bien c'est que avec les 100 écus mon père a pu vivre plus tranquillement, en travaillant de façon plus mesurée. Et puis moi, eh bien, j'ai pu reprendre mes études et j'ai obtenu mon diplôme de médecin. Et comme en plus, j'avais cet outil magique, l'emplâtre qui guérissait les blessures, eh bien, je peux vous dire que je suis devenu un fameux médecin. Mais vous voyez, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est aussi parce que j'aimerais que vous m'aidiez à réfléchir. Voilà, je vous dis la vérité. Il y a quelques jours, je me suis fait voler mon outil magique, l'emplâtre. J'ai tout perdu. Cet outil féerique, hop, il a disparu. Alors je me dis que peut-être il faut que je retourne à la source, que je retrouve Mercurius. Mais est-ce que vous croyez que j'aurai assez de chance pour le retrouver et puis pour que les choses se passent au mieux? Je veux bien que vous m'aidiez à réfléchir là-dessus, parce que moi je me dis que oui, je vais vraiment être éprouvée dans cette épreuve-là, dans ce nouveau passage possible. Je vais être éprouvée dans ma foi en ma chance. Et je vous laisse sur cette question. Bon, reprends nos bonnes habitudes, juste quelques mots de commentaire sur cette histoire. Je trouve qu'elle décrit bien deux états d'être, disons, deux humeurs différentes. Il y a l'état du bûcheron, que je trouve sympathique d'ailleurs, par ailleurs, et puis il y a l'état de cet étudiant. Et ce que l'histoire montre, me semble-t-il, c'est que notre état intérieur attire la réalité extérieure. C'est parce qu'il croit, mais profondément, en sa chance. Il l'a vécu aussi, puisqu'il a eu cette chance incroyable de pouvoir faire des études pour un fils de bûcheron. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et il a tellement bien vécu cette période-là. Et donc, il se vit comme quelqu'un qui est infiniment chanceux. Et du coup, eh bien, avec cette histoire, avec Mercurius, eh bien, il agit en croyant en sa chance. Et quand se pose à lui la question, qui est une vraie question, qu'on pourrait se poser chacun d'entre nous, est-ce qu'on aurait rouvert la bouteille? Moi, je sais pas encore ce que j'aurais fait. Je suis pas sûre que je l'aurais réouverte. Mais lui, cet étudiant, il est habité par une chance infinie. C'est sa caractéristique. On a tous, quelque part, je crois, une qualité infinie en nous. Et s'il ne croyait plus en sa chance, en ce qu'il est si profondément, eh bien, il se trahirait lui-même. Et je pense que c'est pour ça qu'il rouvre la bouteille. Et donc, la conclusion, c'est que si on souhaite un changement extérieur, eh bien, sans doute qu'il faut commencer par susciter un changement intérieur et peut-être identifier l'infini que nous portons, qui attire l'infini et la vie à lui-même. Et donc, la question qui se pose à la fin de l'histoire, sur laquelle je vous ai laissé, c'est: jusqu'où il va pouvoir, effectivement, ayant perdu son outil magique, jusqu'où il va pouvoir traverser cette situation en continuant à être porté par la foi en sa chance, pour qu'il trouve, eh bien, la source qui va pouvoir l'orienter vers une nouvelle étape. Et voilà. Bonne journée à tous.